Otaku, pour vous, la rubrique Voici. Salut et bienvenue dans la chronique Ogiku pour le mois de juillet. Alors la musique qui démarre vous donne certainement un indice sur le sujet de la rubrique On se mate quoi ? Sorti le 1er mars de cette année et réalisé par James Mangold, parlons du troisième et dernier film d'une célèbre saga consacrée à l'un des personnages issus de l'univers Marvel, Wolverine bien sûr. Donc après X-Men Origins Wolverine de 2009 et Wolverine le combat de l'immortel de 2013, cette année, on retrouve Hugh Jackman dans le film Logan, inspiré du comics Old Man Logan créé par Mark Millar et Steve McNiven, paru entre juin 2008 et septembre 2009. Alors nul besoin du TARDIS ou de la superbe DeLorean, mais plutôt bien vautré dans mon canapé comme la bonne Ogiku que je suis. Me voilà donc, grâce à la magie merveilleuse du cinéma, projeté en 2029. Oh, mais qui vois-je aussitôt ? Mon vieil ami Wolverine, qui cela dit en passant a pris un bon coup de vieux. Il est en pleine baston avec une bande de Mexicains, visiblement en mauvaise posture. Allez, Volvi, t'es un X-Men ou pas ? Les mecs n'ont même pas de super pouvoir, allez, mon vieux ! Je vais te dire, Ogiku, Wolverine, faut toucher sa fierté pour le motiver.
Crois-moi, mon pote, je suis pas un exemple à suivre.
Et bingo, ça marche. Volvi sort ses griffes. Il est au taquet. Mais peut-être un peu trop. Doucement, Volvi, doucement. Mais non, pas doucement, pas doucement. Je vous épargne les détails, mais croyez-moi, c'était plutôt sanglant. Enfin, on se check, on se fait la bise, on discute. Le pauvre, il est dans un sale état et son pouvoir de régénération n'est plus aussi efficace qu'avant. Bon bah ouais, et en même temps, il a 127 ans le type, hein. Quoique, toujours beau gosse pour cet âge. Et ne rêve pas, jeune adoratrice de Hugh Jackman, tu ne verras rien de sa plastique de rêve. Du coup, on monte dans sa voiture pour rentrer, une limousine. Je vois qu'on ne se refuse toujours rien à l'Institut Xavier. Mais en fait, c'est pas du tout ce que je crois. Et la nouvelle tombe. Les mutants sont en voie d'extinction. Et les derniers encore en vie se cachent parmi les humains. Logan travaille en tant que chauffeur de limousine et il vit dans un repère dans le désert. Heureusement, mon très cher professeur Charles Xavier est toujours là. Et je me ravis de le retrouver. Quoique, le pauvre a subi aussi les ravages du temps. En pleine crise de folie, heureusement que Logan est là pour lui administrer un calmant. Hein. Et d'après, on a évité le pire. Au passage, je rencontre le troisième larron de la bande. Lunettes de soleil et guenilles qui le cachent quasiment entièrement, le monsieur se présente, Caliban. Alors je réfléchis un moment. Caliban. Ah, mais ouais, on s'est rencontrés vite fait dans X-Men Apocalypse, sorti en 2016. Bon, pour ne pas trop le vexer, j'évite de lui dire que je n'ai pas trop aimé ce film, déjà que je l'avais un peu zappé. Tu trafiquais les identités des X-Men, et Mystique t'avait même ramené Kurt pour que tu lui fasses un passeport. Alors lui, déjà qu'il était sensible au soleil, bah aujourd'hui, plus rien, il supporte plus du tout. C'est un coup dur pour moi, mes héros se rapprochent de la fin. Mais, rebondissement, une fillette vient foutre le bordel. Qui elle est vraiment ? Je vous laisse le découvrir dans le film Logan. Qui elle deviendra plus tard ? Eh bien, à moins d'avoir lu les comics, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, elle a un sacré potentiel. Et si Volvi joue les 5 heures, comme d'hab, je suis heureuse que le professeur X soit encore là pour aider la petite. Et c'est pour cette X-Men en herbe, Laura, que mes vieux amis décident de reprendre du service. Alors je ne te raconterai pas toute l'aventure que j'ai vécue avec eux en 2029. Mais laisse-moi te dire une chose. Ceci n'était, à mon avis, que les prémices d'une nouvelle histoire sur nos X-Men adorés. Alors, Ogiku, va regarder Logan. I will let you down. I will make you hurt. pour ceux qui ne nous ont pas encore abandonnés pour aller le regarder, on enchaîne avec la rubrique « Une petite partie, ça te dit ». Je vous en avais parlé dans l'agenda des sorties et donc le 28 avril, je me suis rendue dans mon magasin de jeux vidéo pour aller récupérer Little Nightmare. Ah, que d'impatience sur le trajet du retour à reluquer cette aguicheuse jaquette. Aussitôt rentrée, je lui ai donc rapidement, mais délicatement quand même, retiré son plastique et enfin, j'insérai le disque dans ma console. Manette en main, au travers d'une bande son sombre et inquiétante composée par Tobias Lilja, me voilà plongée dans l'ambiance Little Nightmare et j'ai donc pris les commandes de la petite Six dans son imperméable jaune. Après s'être réveillée dans une cale d'un immense bateau, petit test réflexe du gameplay qui n'a rien de compliqué en lui-même. On sautille, on trottine, on peut saisir quelques objets et on ne sait d'où il sort, puisque quand même on est une fillette, on a un briquet. Alors un briquet qui va s'avérer pratique. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente chronique, notre objectif est de sortir de ce bateau sain et sauf. Et l'on comprend très vite pourquoi l'on veut s'enfuir, puisque les lieux sont remplis d'étranges personnages prêts à nous bouffer. Alors on prend notre courage à deux pieds marins, et voilà donc l'aventure qui commence. On remarque très vite que notre écran tangue au gré des vagues, amenant parfois certains objets à bouger également. Petit détail certes, mais qui apporte quand même une touche de réalisme. Alors on avance dans les profondeurs du navire, parfois dans des conduits étroits et sombres, merci aux concepteurs du jeu qui ont pensé aux briquets. Alors on allume des bougies au passage pour éclairer un peu les lieux, et on ne les oublie pas, car il y a un succès à débloquer, puis le moment venu, vous comprendrez leur intérêt. Et nous voilà devant quelques énigmes. Si elles ne sont pas très compliquées à résoudre, il faut cependant faire preuve de prudence et repérer les atouts et faiblesses de chaque ennemi. Je ne vais pas tout vous dire, ça serait trop facile. Mais je vais prendre l'exemple des frères Cuisto, pros de la saucisse d'enfant. Ils ont une excellente audition, mais en revanche se déplacent très lentement et n'atteignent pas les hauteurs de certains meubles. Et je n'ai pas pris cet exemple au hasard. Il y a également un succès à débloquer dans la cuisine si vous ajoutez 3 légumes dans la soupe qui mijote. En bref, les énigmes consistent essentiellement à se diriger vers la sortie en passant par tout un tas de pièces étranges. Et là, très honnêtement, l'esthétique est sublime. Chaque endroit traversé dégage un sentiment de malaise, une angoisse ancrée dans la familiarité des lieux qui regorgent de détails. Tout est entièrement soigné et ne manque pas de finition. Les jeux d'ombre et de lumière sont parfaits, ceci allié à un design sonore impeccable. Ne pensez pas mettre un pied sur un parquet sans qu'il ne grince. Et si par malheur vous faites tomber un objet fragile, il se brisera. Alors tout ça, bien sûr, est un risque potentiel d'alerter ces hideux personnages qui s'affairent dans leur sinistre tâche. Et si c'est le cas, alors vous entendrez les battements d'un cœur résonner, tandis que la musique s'accélérera. Et vous devrez rapidement trouver une cachette pour vous mettre en lieu sûr le temps que leur vigilance retombe. Et c'est justement là que l'un des points faibles du jeu devient absolument frustrant et énervant. Passer trop près d'un mur ou des éléments du décor aux contours irréguliers a souvent des effets gênants sur les sauts et les mouvements de la petite Six, qui donne l'impression de se cogner contre un plafond invisible ou de s'accrocher aux objets alors qu'on n'a pas utilisé la gâchette servant à agripper, attraper. Un problème qui se manifeste d'autant plus facilement dès qu'on doit se carapater ou se faufiler vite fait. Bien qu'il n'y ait pas de game over dans la partie, mais seulement un retour au dernier checkpoint atteint, ce petit défaut devient rapidement une vraie plaie, d'autant plus que l'un des succès, dur à cuire, consiste à finir le jeu en moins d'une heure sans mourir. Alors soyons honnêtes, il n'y a rien de plus frustrant que de savoir qu'on a fait tout le truc bien comme il fallait, et que pourtant, ça marche pas. Et ça nous arrive à tous, bien sûr. Alors on voudrait balancer cette foutue manette, mais on se souvient de son prix. Alors on vocifère des noms d'oiseaux dans tout un tas de langues étrangères. On dira qu'on n'apprend rien dans les jeux vidéo. Enfin bref, une fois que l'on comprend que ce n'est pas toujours nous qui jouons comme des billes, on finit par s'y habituer et l'aventure de Six continue. Et bon bah, même si ce jeu de plateforme réflexion est visuellement magnifique, bah malheureusement, il a un goût de trop peu. Zéro narration, que dalle. Alors ok, on est Six. On le sait qu'on s'appelle comme ça parce qu'on a lu l'info quelque part ou parce qu'on a écouté la superbe chronique Ogiku sur Radio Pont. Mais sinon, rien ne nous le dit dans le jeu. Comment on s'est retrouvé dans ce bateau? Bah on sait pas. Pourquoi? On le devine vu que nos ennemis cherchent à nous bouffer, mais sinon, rien de plus. Mais justement, qui sont ces ennemis? Mystère et boule de gomme. Alors, si comme moi tu veux faire l'acquisition du jeu, en version collector, tu auras dans le coffret, entre autres, une petite BD. En anglais. Dedans, il semble qu'il y ait un petit, tout petit retour en arrière sur comment Six est arrivé sur le bateau. Mais hormis les noms d'oiseaux, I don't speak English. Donc j'ai suivi les chapitres du jeu sans avoir de réponse à mes questions. Au passage, vu qu'on n'a pas bouffé depuis un moment, on se tape un petit rat par-ci, par-là, on survit quoi. Et là, au bout de 4h30, bonjour madame, je tombe sur une geisha. Alors non, rien à voir avec la magnifique Sayuri dans le film Mémoire d'une geisha. Non, non, rien, rien du tout. Enfin bref, habituée au jeu de réflexion, je la lamine sans mal et frustration ultime lorsqu'à cet instant, la cinématique de fin s'enclenche. Alors si je me posais déjà des questions durant le jeu, la fin m'en a apporté des nouvelles. Je dirais pas que mon tête-à-tête avec Little Nightmare était un cauchemar, mais comme dans un resto gastro, c'est beau, ok. Mes sorties de table battent encore la dalle. Bah là, t'es dans le jeu, t'es même pas certain d'avoir quitté cet horrible bateau, mais t'as presque envie que les malheurs de Six se poursuivent. Si ça avait été une DLC, j'aurais eu un coup de foudre pour Little Nightmare. Cependant, ça reste une aventure visuelle absolument somptueuse. Si comme moi tu es fan de l'univers de Tim Burton, mais que tu attaches moins d'importance au pourquoi du comment, alors son charme ne devrait pas te laisser indifférent. Et c'est le moment maintenant de sortir ton agenda, Ogiku, pour noter les sorties de juillet. On commence avec les conventions geek et otaku. Le 1er et 2 juillet, à la salle des fêtes d'Ilzach, se tiendra la Geek Unchained V2.0. Au programme, jeux vidéo, pop culture, cosplay, rétro gaming, manga et comics. Philippe Dessoli est l'un des invités de la convention. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le papa de Mr. Nuts sorti en 95 sur Super Nintendo, Mega Drive et Game Boy. C'est aussi l'illustrateur officiel de Goldorak, Albator et bien d'autres. Mais pour l'occasion du tirage au sort de la Tombola, l'artiste fournira un fan art d'Iki, des Chevaliers du Zodiac, en armure divine. Et gros événement, très attendu par les otaku, la Japan Expo de Paris qui se tiendra du 6 au 9 juillet. Alors il est difficile de résumer la Japan Expo tant elle propose tout un florilège d'animations diverses. Du coup, parlons plutôt des invités présents. Vous pourrez voir Sayo Yamamoto lors d'une conférence et des séances de dédicaces. Rare femme réalisatrice du Japon, elle a notamment participé à plusieurs épisodes de Samurai Champloo, Eureka Seven ou Space Dandy. C'est aussi la réalisatrice de la série sur le patinage artistique Yuri on Ice. Retrouvez également un personnage phare de l'histoire de l'animation japonaise, Masao Maruyama. Il a participé à la production d'un grand nombre d'animés, Astro le petit robot, Ashita no Joe ou Death Note pour ne citer que. Et puisqu'il est difficile de faire la liste de tous les invités, je vais faire un dernier zoom sur une mangaka, Hirono, qui pendant sa conférence vous présentera sa première série, The Grim Reaper and an Argent Cavalier. Désolé pour mon accent pourri. Qui sortira aux éditions Kana. Bref, la Japan Expo, ça promet encore un grand et bon moment. On poursuit avec les sorties jeux. Le 11 juillet, sur PS4, Final Fantasy XII, The Zodiac Age de Square Enix. Alors c'est le remaster du jeu de rôle Final Fantasy XII qui était sorti sur PS2. À l'époque, il se différenciait de ses prédécesseurs à travers une nouvelle approche des combats plus dynamique, vous permettant d'être plus libre avec vos mouvements. Maintenant, vous pouvez parcourir le vaste monde du titre pour découvrir une nouvelle fois cette histoire riche en rebondissements et en magie. Le 21 juillet, sur Switch, Splatoon 2 de chez Nintendo, bien sûr. Alors, c'est un jeu de tir et de peinture en multijoueur déjanté qui est de retour sur Switch. Splatoon 2 reprend ce qui s'est fait de mieux sur la Wii U pour l'adapter et le sublimer sur la nouvelle console de Nintendo. Parcourez des environnements entre amis, aspergez-vous de peinture et transformez-vous en calamar pour vous cacher dans les flaques colorées. Voilà qui promet. Et je finis l'agenda des sorties avec les nouveautés manga. D'abord, le 5 juillet, aux éditions Soleil, Between You and Me, un shōjo de Aikiwa Saki. Shizuku a beaucoup de mal avec les garçons canons. Elle les trouve cruels avec les filles et un but d'eux-mêmes. Cependant, pour faire plaisir à une copine de classe, elle se retrouve à adresser la parole au beau et doux Tamaki Yagami. Mais elle se trompe et va voir son frère jumeau, Kaede. Aussi brutal dans ses manières que dans son apparence, ce dernier va lui demander d'emblée de sortir avec lui. Se laissera-t-elle charmer par l'un des jumeaux Yagami? Eh bien, vous le découvrirez dans Between You and Me. Le 6 juillet, chez H2T, Anna No Breath, de l'auteur Kali. C'est un global manga, donc un manga réalisé par un auteur occidental, du genre romance et tranche de vie. Azami, 16 ans, ne comprend pas la passion de ses amis pour le yuri et le yaoi. Elle n'aime que les garçons et surtout le beau Gwen, avec qui elle rêve de sortir depuis le début de l'année. Intelligent, sportif, un peu plus âgé qu'elle et surtout mignon, il a tout du petit ami idéal. Mais comment réagira-t-elle quand elle découvrira que Gwen est en réalité une fille ? Réponse dans Anna No Breath. Et puis pour terminer, j'ai vite fait prononcer son titre tout à l'heure en vous parlant de la Japan Expo. Le 7 juillet, chez Kana, The Grim Reaper and an Argent Cavalier, toujours aussi pourri mon accent, je vous l'accorde, il s'agit d'un shonen d'aventure et fantastique de Hirono. Il était une fois un frère et une sœur qui étaient de grands sorciers. Le grand frère découvre le moyen d'accéder à l'immortalité, dévorer des âmes. Il devient alors le seigneur de la mort, à chaque fois un peu plus assoiffé d'âmes humaines, et il lance sur le monde les larvas, des humains métamorphosés chargés de récolter des âmes pour lui. Sa petite sœur, Lemuria, se rebelle et fonde un ordre de chevaliers chargés de traquer et éliminer les larvas. 200 ans se sont écoulés. Le jeune Sian décide de devenir lui aussi un chevalier pour sauver l'âme de la descendante de Lemuria. Mais pour cela, il se lance dans une quête qui pourrait bien lui coûter la vie. Petite info pour vous inciter un peu plus à découvrir cette nouveauté. Sachez que pour la version originale, l'éditeur n'est autre que Square Enix. Et voilà mes petits ogikous, cette chronique est terminée, mais comme toujours on se quitte en musique, avec un petit remix sur le retour du Jedi, et je vous dis à très vite.
Thank you. the power of the dark side.